Store. L'émission. Transistor.
Vous êtes bien, vous êtes sur l'autre radio et vous écoutez l'émission Transistor. Ravi de vous retrouver pour cette émission de rentrée, une rentrée qui s'annonce chargée, puisque vous le savez peut-être, chers auditeurs, Transistor change de peau. Et oui, après 15 années passées à l'écoute des musiques actuelles, le magazine, tout comme l'émission Transistor, s'intéresse désormais à l'ensemble du champ culturel en Mayenne, du cinéma au théâtre, de la musique aux arts plastiques, de la littérature contemporaine au metal hardcore. Le 7 octobre prochain, soit samedi qui vient, paraîtra le premier numéro du magazine dans sa nouvelle version, tout beau, tout neuf. Un nouveau numéro qui sera accompagné de la très attendue, en tout cas on l'espère, compilation Transistor, à découvrir en direct live au Théâtre de Laval, samedi prochain, donc le 7 octobre, avec 11 groupes sur scène pour deux concerts de folie. Alors si vous n'avez pas encore votre place, précipitez-vous, je crois qu'il en reste quelques-unes, si mes infos sont bonnes. Aujourd'hui, pour cette émission Nouvelle Formule, nous avons le plaisir d'accueillir un invité qui a lui aussi une actualité bien chargée, Yannick Lemarié. Bonsoir Yannick.
Bonsoir.
Alors, pour vous présenter, on peut dire que vous êtes président de l'association Atmosphère 53, mais aussi critique de cinéma, enseignant, auteur d'un récent dictionnaire des objets dans le cinéma, dont nous aurons tout le temps de parler au cours de cette émission, de cette heure passée ensemble. Mais avant cela, on ne change pas les bonnes habitudes. Je vous propose de démarrer cette émission avec une découverte musicale. Un titre extrait du premier disque de Iftol Family, tout frais sorti, Let It Go.
Watch it.
last one. I don't care what the people can talk and it's a long time. Wanna do to my life. I don't know why you wanna close as me. I think right now, I hope in my mind. That's one. I don't care what the people can talk and.
Le groupe If Tall Family qui fêtera la sortie de son premier album au théâtre Jean Massé à Laval lors de deux concerts le 14 et 15 octobre. Et puis qu'on retrouvera aussi dans l'émission Transistor Live qu'on organise le 7 décembre. Vous pouvez déjà noter ça dans vos tablettes, sur vos carnets. Au théâtre de Laval avec aussi La Croqueuse. Donc voilà, il y aura deux groupes dans cette émission. Donc rendez-vous le 7 décembre pour retrouver If Tall. Yannick, comme je l'ai dit en introduction, vous êtes président de l'association Atmosphère 53, qui œuvre pour la diffusion du cinéma en Mayenne, on va en reparler hein, plus largement. Vous êtes critique de cinéma à la revue Positif, auteur de plusieurs articles, de livres autour du cinéma, je citais tout à l'heure le dictionnaire des objets. Comment vous êtes, question très vaste, hein, attention, comment vous êtes tombé dans le cinéma, comment c'est né cette passion-là pour vous?
Alors, bon, c'est toujours difficile de dire comment une passion naît.
Ouais.
Moi, j'ai trois souvenirs en tête qui ont pu, de certaine façon, marquer des étapes dans ce goût pour le cinéma. D'abord, c'était quand j'étais tout jeune, il y avait, mes parents nous avaient offert à mes frères et moi, ma sœur et moi, un petit projecteur comme ça, de diapositives plutôt, et donc on avait essayé de faire quelque chose, de raconter une histoire en projetant des images.
D'accord.
Déjà, c'est le premier souvenir, ça. Donc ouais. Il y avait déjà de fascination comme
un
ça
goût pour l'image,
voilà.
Et
pour
la narration par l'image, voilà. Et la projection.
Et la projection. Ensuite, c'était chez un copain, il avait un petit projecteur 8 mm et on avait vu un film de cow-boy, par exemple. Pareil, c'était assez fascinant. Et puis plus tard, c'était finalement première expérience cinématographique avec Il était une fois dans l'Ouest. Et ça m'est resté. Ça m'est resté parce que c'était la première expérience aux
États-Unis. Western encore.
Réellement. Voilà. Ouais, ouais. Oui, mais c'était un peu des hasards, ça. Ce qui m'avait fasciné surtout, c'était la capacité à raconter des histoires pour les cinéastes et puis les images. Voilà. Mm. Et après, j'ai fait les études de lettres plutôt. Et les deux passions se conjuguent fort bien, puisque dans les lettres, moi j'ai beaucoup travaillé sur Zola, donc il y avait chez Zola un goût du récit, un goût de grandes images même. Hein. Mmh, et cette passion pour la littérature.
Ça aurait peut-être été un cinéaste, je vous coupe. Ça aurait peut-être été un cinéaste s'il avait connu, il avait pu utiliser l'outil.
Mais bien sûr, parce que de toute façon, même dans sa façon de raconter les histoires, on voit bien qu'il passe de plans très larges à des gros plans, il passe. D'un petit détail comme ça qu'il va pointer à un événement qui est beaucoup plus ample. Donc il y a tout un travail de mise en scène chez lui et un travail même de scénario. On voit bien que c'est très construit et il y a chez lui aussi une capacité à produire des images. D'ailleurs, Zola, c'est quelqu'un qui a été fasciné par l'image puisqu'il a fait pas mal de photographies.
D'accord.
Donc voilà, donc la conjugaison entre la littérature et puis le cinéma, c'est fait naturellement.
Comment ça s'est développé cette passion-là pour le cinéma? Est-ce que vous étiez un rat de cinéma quand vous étiez adolescent, étudiant, vous couriez les salles de cinéma, vous empruntiez des VHS, je sais pas.
Les VHS, c'était un peu après.
d'accord. Voilà. Ça situe un peu, voilà, ça situe l'époque.
Voilà. Mais au début, c'était ça, oui, c'était que voir des films.
Parce que vous avez grandi en Mayenne, j'imagine.
Voilà. Donc, c'était profiter des ciné-clubs. Il y a eu des gens qui ont fait les ciné-clubs, un festival autour du film africain, par exemple. Ça, c'était un souvenir extraordinaire parce que c'était quasiment la première fois qu'on voyait. Il y avait une trentaine de films africains, quarantaine de films
c'était
africains.
En Mayenne, à Laval.
À Mayenne. Ouais. Et on passait du théâtre de Mayenne à la salle de cinéma de Mayenne et on voyait plein de films comme ça. Et il y avait aussi plein d'activités comme ça autour du cinéma sous forme de ciné-club. de cinéma. Puis après, petit à petit, je me suis déplacé. Donc, j'allais à Laval. Puis, je suis allé beaucoup à Angers, au 400 coups.
Ouais, grande ouais, salle, un cinéma très, très grande assez salle. Réputé, ouais.
Voilà. Et puis, petit à petit, c'était plus Paris. Hein.
La Cinémathèque, un peu le pèlerinage aussi, dans ce lieu, au lieu de cinéma, j'imagine.
Bien sûr, bien sûr, oui. Mmh. Oui, oui. Et donc, et puis, évidemment, lorsque la VHS est arrivée, ça a permis aussi de voir des films qu'on ne voyait pas facilement, d'enregistrer à la télévision aussi. Enfin voilà, il y a eu tout ce travail-là. Il y a un petit côté peut-être compulsif, mais effectivement, j'aime bien avoir. Et puis, j'aime bien, d'une manière générale, que ça soit en littérature ou pour le cinéma, quand je rencontre un réalisateur ou un acteur, voir plusieurs films de ce réalisateur ou de cet acteur, hein, pour essayer de le comprendre, pour essayer d'apprécier. Voilà le travail qui est fourni par ces gens-là.
Avoir un regard un peu panoramique sur son travail, en fait.
Voilà, voilà. Mais comme on peut l'avoir en musique, par exemple, hein, où c'est toujours bien d'avoir effectivement écouté une musique, enfin une chanson ou un morceau, et puis aller voir d'autres morceaux parce qu'on constate effectivement la richesse, les constantes aussi, c'est ça qui est agréable parfois.
Voir comment ça évolue, ce qui reste, ce qui change effectivement dans l'œuvre d'un artiste sur du long terme, quoi.
Voilà, voilà. Et puis ça donne un côté extrêmement vivant, c'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est pas quelque chose qui est figé, c'est pas une création figée, mais c'est une création qui est toujours en mouvement et qui est toujours très inventive. En tout cas, c'est ce qui est, me semble-t-il, hein, l'une des caractéristiques des grands, c'est être capable de se réinventer constamment et d'évoluer. Et donc ça, je trouve ça assez fascinant et j'adore ça.
Donc j'imagine, vous avez une collection de DVD. De...
Oui, 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 oui. Alors, je
prend la place.
Je clignote des pièces petit à petit dans la maison, au grand désespoir de la famille. Mais, oui, oui, ben oui, parce que je sais par exemple que sur cassette VHS, j'ai des films qui pendant un certain temps, on ne voyait plus du tout, qui avaient quasiment disparu ou qui sont très rares maintenant. Oui. Et donc, voilà, il y a une richesse aussi à conserver parfois, une mémoire à conserver des cassettes VHS, voire parfois des DVD.
Alors, la conjugaison entre goût du cinéma et goût de la littérature, elle se concrétise aussi dans une activité qui est la vôtre, c'est celle de critique, puisque être critique, c'est écrire sur le cinéma. Comment c'est venu cette activité-là pour vous ? Ce qui n'est pas une activité évidente. Comment on devient critique de cinéma ?
Alors, effectivement, c'est d'abord le goût de l'écriture, le goût du cinéma. Et puis, un jour, c'est se dire, j'ai envie d'expliquer un peu ce que je ressens face à un film.
Peut-être que c'est une pratique personnelle au départ.
Oui, bien sûr.
Dans un journal ou voilà, pour soi, quoi, en fait.
Voilà.
Journal intime ou carnet de bord.
Alors, j'ai jamais fait de journal intime, mais effectivement, prendre quelques notes sur un film et puis... ce qui m'intéresse dans la critique, c'est pas du tout de porter un jugement, voilà, une note sur un film, ça n'a pour moi strictement aucun intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est à la fois rencontrer un créateur, me demander ce qui chez lui est intéressant, et puis aussi essayer de comprendre ce qui résiste parfois chez ce créateur et ce qui me parle à moi. C'est-à-dire que c'est vraiment, je vois ça comme un dialogue.
Il y a un côté subjectif, en fait.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Assumé, du coup.
Oui, ah oui, totalement.
Parce que la critique peut aussi se revendiquer d'une certaine objectivité, on pourrait.
Non, j'y crois pas du tout, moi. J'y crois pas du tout.
J'ai l'impression que non.
Je crois pas du tout. Je crois que effectivement, c'est une subjectivité, mais c'est un dialogue. Voilà, c'est un dialogue. C'est-à-dire que on regarde un film et puis on se dit qu'est-ce qui résiste. Qu'est-ce qui, parfois, dans un premier temps, nous déplaît, mais on sent qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et c'est cette résistance, ou ce qui résiste en nous aussi. C'est-à-dire que pourquoi on est un peu marqué par ce film-là sans exactement comprendre. Voilà, c'est vraiment un dialogue qui s'approfondit. Et ce qui est fascinant, pour moi en tout cas, c'est à la fois, au bout de la critique, mieux comprendre le film et peut-être mieux se comprendre aussi. C'est-à-dire se découvrir aussi. Vraiment, il y a... De jeu de miroir entre l'un et l'autre.
C'est pas qu'une analyse extérieure d'un objet extérieur à soi, quoi.
Non, non, non.
C'est l'effet que ça produit sur nous aussi.
Au contraire, oui. Mmh. Oui, oui. Mmh. Et c'est ce qui fait parfois la difficulté, c'est-à-dire que effectivement, il faut peut-être parfois s'exposer un peu dans la critique. Et en tout cas, il faut accepter de ne pas avoir le dernier mot et accepter aussi de parfois passer à côté d'un film. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, il n'y a pas de dialogue qui se noue entre le créateur et nous. bon, ça peut arriver.
Mmh. Pas et là, on écrit un texte quand même ou pas?
Ben, non. Oui, oui. Mais pourquoi pas, à la rigueur? Pourquoi pas? Parce que ça peut être aussi parfois intéressant de lire ce qui résiste. Enfin, voilà, on sent qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais on a du mal à l'exprimer ou on a du mal à le comprendre.
Alors, il y a une envie personnelle au départ qui procède de ce travail-là. Et ça se concrétise après par des publications quand même de ce travail-là dans le magazine Positif que je citais tout à l'heure. Comment ça s'est fait, ça? Alors, en soumettant des textes au magazine en direct, je ne sais pas.
Voilà, c'était, je me souviens encore, alors maintenant ça va faire, c'était dans les années 80, je développais une fascination à ce moment-là pour Batman, la série des Batman.
D'accord.
Donc, le personnage me fascinait et il y avait vraiment une richesse. Hein, ça avait été retravaillé par quelqu'un comme Miller et donc c'était vraiment, même le comics, c'était vraiment de plus en plus riche. Mmh. Et voilà, il y avait une fascination comme ça et il y avait un film de Schumacher, Joel Schumacher sur Batman avec Schwarzenegger et beaucoup de gens détestaient ce film-là. Et curieusement, moi, je le trouve intéressant. Mm. Et donc, j'ai écrit un petit texte et je me suis dit, je vais l'envoyer à Positif.
Revue de cinéma.
Voilà, grande revue de cinéma. Concurrente.
Donc vous étiez lecteur.
Voilà, je connaissais bien. Et je me suis dit, bon, voilà, je vais écrire le texte. Je l'ai envoyé. Et donc ça, c'est aussi une leçon pour de jeunes critiques qui voudraient faire effectivement quelque chose avec les revues. Je l'ai envoyé par courrier à Michel Simon, voilà, directement.
Le rédacteur en chef,
le grand ponte, parce que c'est vraiment la personnalité, l'une des personnalités les plus importantes du cinéma en France, mais également dans le monde. Et une semaine après, j'ai reçu un coup de téléphone de Michel Simon à la maison. Il m'expliquait que l'article arrivait un peu trop tard parce qu'il y a des contraintes de temps
j'imagine
pour les revues, mais que ce que j'avais écrit lui semblait intéressant ou l'intéressait. Et il m'a dit, bon, dans ce cas-là, faites deux articles, un sur proposer quelque chose. Alors j'ai dû proposer la question de la famille et de l'enfant dans Batman, dans la série de Batman, et puis ce que j'appelais les films verticaux, voilà, contre les films horizontaux.
D'accord.
Et j'ai envoyé ces articles-là. Et là, pareil, 15 jours après, j'ai reçu un coup de téléphone. On me dit, bon, c'est Michel Simon encore. Il me dit, bon, c'est bon, ça sera publié. Voilà. Et c'est parti comme
ça. Et c'est parti.
Et ce qui était très agréable pour un provincial comme moi, totalement inconnu sur Paris, c'est que quelqu'un, d'abord comme Michel Simon, prenne le temps de répondre. Parce que c'était un peu intéressant. Voilà. Ouais. Ça lui semblait intéressant. Donc, il a pris le temps de répondre et après il a été d'une fidélité absolue, c'est-à-dire qu'il a donné sa parole, il a dit voilà, c'est publié et il n'y a pas eu de déception parce que ça m'était arrivé dans d'autres revues, notamment littéraires, où on m'avait dit bon, oui, l'article sera publié, puis en fin de compte, au dernier moment, c'était écarté pour une raison ou pour une autre. Et là, non, pas du tout. Et donc, c'est quelqu'un de ce point de vue-là qui est remarquable.
Voilà. Et du coup, c'est des publications dans chaque numéro. Comment ça se passe, l'attribution des articles? C'est vous qui signalez, tiens, sur ce film-là, j'ai envie d'écrire quelque chose. C'est plutôt des commandes.
Un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que
l'un ou l'autre.
Je vais sur Paris. Là, alors maintenant, après, petit à petit, je suis allé beaucoup plus sur Paris, donc dans les positions de presse. Et puis, je voyais un film. Je dis, ouais, moi, ça m'intéresse. Je peux écrire dessus et puis en fonction de la rédaction, eh bien, on me disait bah oui et puis ensuite son calibre, donc parce que évidemment il y a beaucoup de films, très peu de pages d'une certaine façon, même s'il y a une centaine de pages, mais enfin il faut limiter, donc on fait soit des articles de 2 pages, 3 pages, soit ce qu'on appelle des AZ. Et donc, on me disait...
Et AZ, donc c'est des petites chroniques, j'imagine.
Voilà, petites chroniques très courtes. Mais c'est bien aussi parce que ça permet d'avoir des écritures un peu différentes. Et puis après, moi, je peux proposer. Je dis, ben voilà, j'ai envie d'écrire. Et puis, à l'inverse, ils peuvent me proposer en me disant, voilà, il y a un dossier sur tel réalisateur ou sur tel sujet. Est-ce que tu veux proposer quelque chose? Et je propose, voilà. Et la plupart du temps, enfin, c'est toujours accepté et on fonctionne comme ça. Thank you.
southern trees bear a strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pass through a scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted and smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree. Strange and bitter
Rokia Traoré, Strange Fruit, un titre choisi par notre invité Yannick Lemarié. Cinéphile mais aussi mélomane, j'ai l'impression.
Non, c'est un peu excessif là.
Bon, en tout cas, vous avez choisi ce titre de Rokia Traoré. Voilà, on a reconnu l'original de Strange Fruit chanté par Billie Holiday. Voilà, pourquoi ce choix-là en fait?
Pour deux raisons. D'abord, la première, c'est que Rokia Traoré est une chanteuse, musicienne, malienne. Or, j'ai fait autrefois un certain nombre de voyages et je suis allé au Mali. Et donc, j'ai une passion pour le Mali et j'ai un amour pour ce peuple que j'ai rencontré, que j'ai découvert à ce moment-là.
Peuple et donc, très musicien, d'ailleurs.
Voilà.
Énormément de musiciens maliens, très intéressants.
Oui. En plus, avec des gens qui étaient d'une gentillesse et d'un accueil remarquable. Parce que j'étais tout seul, j'étais un routard à ce moment-là, donc c'était vraiment merveilleux. Et donc j'ai vraiment, pour ce pays, une passion, et pour ces gens-là, un respect total. Et puis l'autre raison, c'est évidemment Billie Holiday, c'est la chanson, c'est le foot. Mm. Bon, et dans le contexte actuel, c'est bien de rappeler aussi cette situation aux États-Unis.
Ouais, c'est une chanson qui résonne. Alors on évoquait tout à l'heure votre activité de critique. J'imagine que c'est cette activité d'écriture qui naturellement vous a conduit aussi à travailler sur l'ouvrage qui est sorti en juin dernier, Dictionnaire des objets dans le cinéma. C'est comme ça que c'est venu, c'est par le fait d'écrire régulièrement dans une revue, de produire des textes sur le cinéma qui vous ont amené à se dire tiens, pourquoi pas écrire un livre.
Oui, alors j'avais déjà participé à pas mal de livres.
D'accord, j'ai dû participer des ouvrages collectifs.
Voilà, une dizaine d'ouvrages collectifs. Donc, à un moment, on a aussi envie de faire un ouvrage...
En son nom.
En son nom, voilà, avec aucune contrainte. Et puis, deux ans auparavant, j'avais coordonné aussi un dictionnaire Octave Mirbeau. Donc, c'était un peu différent.
D'accord, donc plutôt sur votre volet littéraire. Avec une lettre.
Et puis là, c'était une grosse équipe d'universitaires. Donc, ça m'avait donné aussi le coup de dictionnaire. Et je trouvais fascinant d'abord de faire un ou très intéressant de faire un dictionnaire parce qu'il y a une certaine liberté là, vraiment
l'éditeur. C'est particulier comme exercice, le dictionnaire.
Oui. Oui, ouais. Oui,
même à la fois dans l'écriture et dans, on va en parler, et dans la lecture.
Voilà. Ouais. Oui, parce qu'il y a une liberté totale. En plus, là, l'éditeur ne me donnait aucune contrainte, donc je faisais ce que je voulais. Et donc, il y a parfois des citations, voilà. Et puis d'autres raisons qui ont expliqué ce choix, c'est effectivement d'abord envie de parler de cinéma et en parler d'une autre façon. C'est-à-dire que effectivement, il y a beaucoup de dictionnaires de cinéma, mais à chaque fois, ce sont les réalisateurs, les comédiens, ou ce sont des idées. Et moi, ce que je voulais, c'était parler aussi de ce qui est toujours là, qu'on ne voit pas, mais qui reste important. Et lorsque je commençais à parler de ça autour de moi, à chaque fois, je disais, mais dans tel film, qu'est-ce que tu as vu comme objet ? Et les gens avaient toujours, ils me donnaient toujours un objet. C'est-à-dire qu'on voyait bien que c'était quelque chose qui les marquait. Mmh. Et puis, il y avait une dernière raison qui explique ce choix, c'est que dans le cinéma, on veut toujours réduire le film à un réalisateur ou à des comédiens. Et on oublie tout un peuple qui se travaille, qui est extrêmement important et qui a quelque chose à dire sur le cinéma aussi. Et notamment des gens comme les accessoiristes, comme les ensembliers, comme les chefs décorateurs. Alors, chefs décorateurs, on en parle un peu plus, mais des gens comme les ensembliers ou les accessoiristes, on en parle relativement peu ou très peu.
Est-ce qu'on peut définir un peu ces activités-là ?
L'ensemblier, c'est celui qui s'occupe des meubles et qui s'occupe d'une certaine façon de la décoration. Dans une pièce, il y a des affiches, par exemple dans un poste de police, s'il y a des affiches de recherche, ça sera l'ensemblier qui va s'occuper de ça. Mmh. Et l'accessoiriste, lui, c'est celui qui va s'occuper de ce qu'on appelle les objets jouants, c'est-à-dire les objets qui seront utilisés par le comédien et donc qui vont participer à la scène. Mmh. Et donc l'accessoiriste est quelqu'un de précieux parce qu'il est extrêmement proche souvent de l'acteur. Il est aussi à l'intersection de différentes professions, c'est-à-dire l'ensemblier, le chef décorateur, le réalisateur, qui peut aussi avoir des choix particuliers pour les objets. Et donc, c'est quelqu'un qui, a priori, et ça, je trouve ça aussi réjouissant, qui, a priori, quand on regarde le générique, se retrouve relégué à la fin. Et en fin de compte, c'est quelqu'un qui a des relations extrêmement proches avec tous ces gens-là. Mm. Et s'il n'était pas là, à la rigueur, on ne pourrait pas faire une scène. Mm. Voilà.
Et la réussite et la véracité du film aussi tient aussi à ça.
Exactement.
Quoi.
Ouais. Et les acteurs américains, par exemple, sont très sensibles, savent l'importance des accessoiristes. Olivier Crespin, par exemple, qui travaillait sur des films de Woody Allen, qui a travaillé avec des grands acteurs américains, me disait qu'on lui accordait une journée. C'est-à-dire que l'acteur américain venait, Lauren Bacall, par exemple, grande actrice du cinéma américain. Je pense à elle parce qu'il m'a raconté une anecdote, mais elle lui a consacré du temps pour choisir uniquement un stylo et un cahier dans une scène. Voilà. Et donc, lui, il est arrivé, il avait 15-20 stylos, 15 cahiers, et donc l'actrice vient choisir l'objet avec lequel elle va jouer et qui lui semble essentiel.
Il y a un casting à faire, en fait.
Voilà, c'est un casting. Voilà. On pouvait faire donc, des castings de stylos, des castings de verres, de tasses. Et donc, voilà, je trouve ça très intéressant de travailler là-dessus. Et puis, par ailleurs, effectivement, ça a recroisé une réflexion sur la place de l'objet dans la société où on dit effectivement que l'homme sans les objets n'est rien. C'est-à-dire que nous sommes, d'une certaine façon, des êtres techniques et nous sommes obligés d'avoir les objets pour exister. Et donc, le cinéma, c'est ça aussi.
Rapport à l'outil, c'est ce qui définit l'humanité quelque part, c'est qu'on a été capable d'utiliser un outil, ce que font aucun animal. Enfin, c'est ça que vous
voulez
dire, en fait.
Exactement. Et après, il y a aussi le plaisir de l'objet dans les films. Il y a beaucoup d'objets. Alors, il y a des réalisateurs qui jouent avec les objets, qui placent des objets quasiment dans tous leurs films, le même objet. Comme petite signature, invisible,
d'accord.
Mais eux, ça... voilà. C'est Patrice Lacombe qui m'a raconté ça. Il y avait un objet que ce chef décorateur, Motion, place systématiquement dans les films, même s'il ne sert à rien, mais c'est la petite signature.
Et est-ce que vous avez rencontré justement ces des gens qui exercent ce type de métier un peu méconnu, les ensembliers, les accessoiristes, et qui... que vous faites parler dans votre livre
ou... Voilà, exactement. Voilà. Oui. Alors là, j'ai eu la chance de rencontrer... Alors, j'ai fait des choix assez éclectique. J'ai pris des scénaristes carrière, j'ai pris effectivement des réalisateurs, Patrice Lecomte, et puis j'ai rencontré des accessoiristes, Olivier Crespin par exemple, j'ai rencontré des ensembliers, Boris Pio, donc des gens qui pour les spectateurs ne veulent rien dire, voilà, mais qui à chaque fois qu'ils parlent de cinéma en parlent d'une manière extraordinairement intéressante.
Et un peu nouvelle, en tout cas.
Voilà,
une parole pas connue.
Ouais. Exactement, c'est exactement ça. C'est des gens qui sont très peu interrogés. Donc, lorsqu'on leur parle, leur parole, elle est totalement neuve. Et ils racontent plein de choses, plein d'anecdotes, parce qu'effectivement, ils voient plein de choses sur le plateau, comme ils sont toujours là sur le plateau. Donc, ils voient comment...
Des témoins.
Voilà, ils voient comment jouent les actrices ou les acteurs, ils voient comment il faut procéder, avec parfois aussi des relations avec les comédiens qui sont vives ou pleines de sympathie, d'empathie. Voilà. Olivier Crespin, par exemple, a travaillé, il me racontait ça, avec quelqu'un comme Depardieu. Voilà. Il fallait établir une relation de confiance avec lui. Et il a réussi. Et donc voilà, c'est vraiment c'est des gens qui sont étonnants parce qu'ils ont des parcours aussi étonnants. C'est pareil, c'est cinéma.
Oui, c'est vrai, comment on vient à un métier comme celui-là? C'est pas évident, il n'y a pas de formation, je pense qu'il n'y a pas de BEP accessoiriste.
Non, non, non. Mais justement, c'est ça qui est aussi fascinant dans le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des gens qui sont dans les grandes écoles, la FEMIS, qui rentrent dans le cinéma parce qu'il faut une technique, etc. Et puis il y a des gens qui rentrent parce que quasiment ils ont poussé une porte. Alors, dans les accessoiristes, il y a ceux que j'ai rencontrés, il y en avait certains qui avaient travaillé sur des bateaux, donc qui étaient des bricoleurs. Et puis, ils se sont retrouvés par connaissance sur un plateau de cinéma. On a trouvé que leur travail était bon. Donc, on les a embauchés sur d'autres films. Ils ont fait une carrière comme ça. Olivier Crespin, lui, c'était plutôt... il faisait du théâtre de rue. Et donc, petit à petit, effectivement, il a rencontré les gens.
Les décors.
Voilà. Alors, Boris Pio, c'était un beau conteur. Enfin, voilà.
On voit bien le lien aussi.
Voilà, oui.
Le goût de l'objet.
Voilà. Ouais, en plus, ces gens-là se retrouvent presque par hasard sur un plateau de cinéma et finissent par travailler dans le cinéma et trouver une passion dans le cinéma. Et là, pareil, quelqu'un qui n'a pas fait d'études, qui n'a pas fait de grandes écoles de cinéma, peut quand même faire du cinéma par des moyens différents.
Alors comment on procède pour écrire un livre de la sorte? Ça ne va pas être évident en fait. des films, il y en a quand même des millions, des milliers, je sais pas. Et voilà, comment choisir, et puis des objets, c'est la même chose. Comment vous avez procédé, en fait? Quelle méthode vous avez suivi pour écrire ce dictionnaire-là? Il y a combien d'entrées dans le dictionnaire?
Il y en a 200-250. C'est une méthode un peu, là pour le coup, un peu empirique. C'est-à-dire que comme je vois beaucoup de films, il y a des objets qui m'ont marqué, qui m'ont semblé intéressants à évoquer. Et puis après, au fur et à mesure que je voyais les films, j'avais une attention plus grande à l'objet.
Une veille.
Et donc voilà, c'était ça. À chaque fois que je voyais un objet qui me semblait intéressant, je notais. Et puis j'essayais de voir si dans d'autres films, on trouvait cet objet-là.
Alors, on peut donner des exemples un peu, ça serait parlant, je pense. La première entrée du film, voilà, ça va dire plein de choses déjà. Du dictionnaire, c'est l'aiguille à tricoter. C'est ça.
Alors, dans la première entrée, c'était absence.
Ouais, d'accord.
Mais,
c'est une des toutes premières.
Ouais, voilà.
Alors, aiguille à tricoter, qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce qu'à première vue, comme ça, on se dit, tiens, il y a une aiguille à tricoter. Et en fait, vous en dites des choses vraiment passionnantes.
Déjà, la première chose qui explique cette entrée-là, c'est que il y a le film de Buñuel, Elle, qui était marquant pour moi, puisque dans une scène, l'homme qui est totalement jaloux met son œil dans le trou de la serrure, et donc sa femme met l'aiguille à tricoter dans le trou de la serrure pour, d'une certaine façon, le chasser. En plus, comme il est à moitié fou, elle est effrayée. Et donc, à ce moment-là, on se dit, mais dans le cinéma, est-ce qu'il n'y a pas d'autres films qui utilisent l'aiguille à tricoter? Et on se rend compte, en fin de compte, petit à petit, que, on pense à ce film-là, on pense au film de Chabrol sur les femmes qui aidaient à avorter, on pense à d'autres films comme ça, petit à petit, et l'article s'allonge, et on finit par découvrir que cet objet apparemment anodin, en fin de compte, a une histoire dans le cinéma. Et en plus, souvent, ce sont des objets qui ont déjà été aussi évoqués, traités dans la peinture.
Dans l'histoire de l'art.
L'histoire de l'art.
Et l'aiguille à tricoter, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vous en dégagez une portée symbolique, en fait. C'est ce qui symboliserait quelque part la femme. Par la maternité, voilà, le on fabrique, on tricote, on fabrique un petit lainage pour son bébé. Et puis c'est aussi effectivement cet outil qui a été utilisé à une époque lorsque les avortements étaient clandestins. Voilà, donc c'est intéressant de voir aussi cette double facette. Voilà, la portée symbolique finalement d'un objet aussi anodin.
Voilà, le but c'était aussi de varier les entrées et les réflexions, c'est-à-dire que parfois c'était purement cinématographique, parfois c'était un peu historique, j'ai un rapprochement historique, là par exemple l'évocation des tricoteuses pendant la Révolution française,
oui, aussi,
ces femmes, ensuite ça pouvait être une réflexion sociologique, philosophique, voilà. Le but, c'était vraiment de favoriser toutes les entrées possibles pour qu'il y ait une variété et que quelqu'un qui aurait été intéressé par les scénaires, eh bien, puisse y trouver son content en prenant une entrée et puis passer d'une entrée à une autre.
C'est pas un livre qui s'adresse à un spécialiste.
Ouais. Non, non. Enfin, j'espère que non. Alors, il y a peut-être des articles qui sont... plus compliqué parce qu'il faut connaître l'œuvre du réalisateur ou parce que j'essaie de m'avancer sur des réflexions plus ardues. Mais là, l'ambition, c'était aussi que chacun puisse trouver un intérêt.
J'aime bien l'entrée sur l'alliance où vous finissez par conclure en fait à partir de l'alliance, qui est aussi un objet symbolique qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma. Vous finissez par conclure sur une défense du mariage pour tous.
Mais oui, parce que les objets, c'est ça aussi qui peut enrichir un dictionnaire. C'est pour ça que ce dictionnaire-là, d'une certaine façon, n'est pas achevé.
Oui,
on peut toujours
bien
le compléter.
Sûr,
le but, c'est aussi ça, c'est que les gens se disent, ah bah tiens, il y a cet objet-là, par exemple l'alliance, mais on l'a trouvé ailleurs, dans d'autres films. Donc chacun puisse cheminer à son tour, ou que des gens disent bah tiens, il n'y a pas cet objet là, c'est curieux parce que pour moi c'est important, voilà. Et donc l'alliance, effectivement, c'est un objet qui a servi de symbole d'un genre cinématographique, et puis effectivement petit à petit une réflexion autour du mariage pour tous.
La beauté à pleurer de la musique de Shigeru Yamabashi, composée pour le film In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Bon, là, c'est un choix évident hein, pour un cinéphile, pour le cinéphile que vous êtes, Yannick, d'avoir choisi ce titre-là.
Oui. Et c'est aussi une façon de dire que la musique et les images, c'est vraiment un couple extraordinaire, et que les images elles-mêmes, évidemment, là, c'est pas une nouveauté hein, ce que je dis, mais comment produisent des images. Et un film, enfin le film déjà est merveilleux, enfin c'est pour moi un des plus grands films, un chef-d'œuvre absolu. Ouais. Et donc la musique pour le coup, elle accompagne parfaitement le mouvement de l'actrice. Ça nous met dans une ambiance et puis ça nous raconte une histoire aussi.
Qu'on entend, qui se réveille à l'écoute de la musique d'ailleurs.
Oui, exactement.
Il suffit de réécouter le morceau pour se replonger dans l'ambiance du film.
Oh oui, 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 oh oui.
Alors, on a évoqué votre activité de critique, votre dernier ouvrage, Dictionnaire des objets dans le cinéma, qu'on peut trouver partout, j'imagine. On peut trouver
dans toutes les librairies, ouais. les librairies mayennaises. On fait l'effort.
Bien joué le jeu, j'ai pu voir le livre mis en avant.
Ouais. Je les remercie d'ailleurs, parce que parfois certains ont cru que ce n'était vendu que par Internet. Mais non, les librairies font un travail remarquable, donc il faut les remercier.
Donc voilà, on a évoqué cet ouvrage et puis on peut parler maintenant, si vous le voulez bien, de votre activité au sein d'Atmosphère 53.
Oui, bien sûr.
Vous êtes président de l'association depuis 2002. Peut-être que vous étiez avant déjà actif.
Non, pas 2002, 2012,
pardon. 2012-2013, voilà. Je me trompe de décennie.
Oui.
Est-ce que vous étiez actif peut-être déjà de 2002, justement, dans l'association? J'imagine que vous gravitiez déjà dans le giron de cette association depuis un certain temps avant d'en prendre la présidence?
Bien sûr, oui. L'association, je la connaissais depuis très très longtemps. J'ai participé aux activités. J'étais pendant longtemps dans le bureau, j'étais dans le CA, enfin voilà, c'était difficile à Mayenne de ne pas être...
S'intéresser au cinéma.
voilà, de s'intéresser au cinéma et de ne pas avoir des relations avec l'association Atmosphère 53, à cette époque-là, qui est devenue Atmosphère 53. Donc voilà, c'était un compagnonnage quasiment naturel.
Alors Atmosphère 53, c'est énormément de projets, énormément d'actions. C'est le Festival des Reflets du Cinéma, sans doute ce qui est le plus connu et le plus ce qui est le plus identifié.
Oui.
Mais il y a aussi la programmation de films dans les salles de cinéma du département. La gestion directe de cinéma aussi.
Oui,
à Évron,
alors avec des structures,
Goron,
des structures, ouais. Voilà qui.
Je dis ça doucement parce que je suis pas très sûr.
non, parce que bon, il y a Atmosphère 53 est une association, donc lorsqu'il y a une gestion de cinéma, il faut passer par des structures qui sont des structures commerciales. Donc il faut mettre en place un dispositif pour que l'association reste départementale, c'est-à-dire qu'elle travaille pour tous les cinémas, et puis il y a une structure qui a été créée.
Déléguée.
Voilà, qui a été créé pour sur Évron, et Atmosphère entre guillemets n'est que comment l'actionnaire unique. Voilà.
D'accord, je comprends.
Voilà. En revanche, effectivement, le travail de programmation se fait par Atmosphère 53 pour Évron, pour Goron, et puis on travaille avec les autres salles du département. Mais Atmosphère 53, j'insiste là-dessus, c'est vraiment une association départementale qui travaille avec tout le monde et pour tout le monde.
Ouais. Et peut-être je me trompe, vous me détromperez, ce qui fait l'essence de cette association-là, au départ, c'est la médiation, c'est l'éducation à l'image, c'est le travail auprès du public, des jeunes publics, pour l'éducation au cinéma. C'est vraiment ça qui fait le cœur de ce projet-là. Et ce serait bien qu'on parle un peu justement de tout ce que vous portez, ce qui n'est pas très visible, en fait, je pense, du grand public dans ce domaine-là, et qui fait écho à un dossier qu'on a traité dans Transistor, là, le prochain numéro, autour de l'éducation artistique. Voilà. Est-ce qu'on peut creuser un peu ce sujet-là?
En
tant qu'enseignant, j'imagine que vous êtes très sensible à ça.
Oui, oui. Ben, le travail d'Atmosphère 53, effectivement, c'est le travail auprès du jeune public. Et donc, depuis le début, il y avait à la fois, effectivement, ce travail auprès des salles pour essayer de soutenir des films fragiles, mais il y avait aussi cette conviction qu'il fallait proposer aux jeunes spectateurs des films également. Et donc, le travail de 1953, c'est porté sur les plus jeunes, donc maternelle et primaire. Je dis maternelle, j'insiste, parce que c'est un cas très très rare en France même d'une programmation pour le plus jeune des plus jeunes publics.
Ouais, ouais.
Et puis cette programmation pour le public est portée également en collège et en lycée. Donc on essaye de toucher tous les publics scolaires. Et de les amener à apprécier les films.
C'est des opérations comme Collège au cinéma, comme Ciné-enfant, qui vont toucher, il faut quand même le dire, un nombre important de personnes, de jeunes en fait. Il y a 30 ou 35 000 jeunes qui sont touchés chaque année par ces opérations-là.
Oui, c'est
énorme.
C'est énorme parce que déjà, pour les maternelles, primaires, pour les écoles, on est autour de 250 écoles touchées. C'est-à-dire que l'ensemble du département est couvert. Et là, c'est un cas unique, quasiment en France. Hein,
on peut en être fier. Hein.
Ah oui, non, mais je crois qu'il faut que tout le monde soit fier. Je veux dire, à la fois les collectivités, parce que c'est elles qui portent aussi cela, qui aident, pour les bénévoles qui participent, pour les enseignants aussi. Donc là, il y a vraiment une fierté à avoir. Effectivement, il faudrait qu'on mette un peu plus ça en avant et qu'en Mayenne, on le dise haut et fort, non seulement dans la région, mais aussi ailleurs. Mmh. Parce que c'est vraiment un travail remarquable et qui est un travail, alors évidemment, qui est porté par Atmosphère, mais qui est aussi un travail collectif. Mmh. Exactement. Mmh. Et puis, donc, ce travail-là est important. Donc, 250 écoles à peu près sur le département, les collèges, on a une trentaine de collèges, les lycées, alors c'est un peu plus difficile parce qu'il y a plusieurs opérations donc de dénombrer, mais enfin on touche beaucoup de lycées aussi et effectivement on est en scolaire autour de 40-45 000.
D'accord, même plus que entrées. Je te disais.
Donc c'est un travail remarquable. Je dis remarquable parce que là ça concerne les gens qui étaient avant nous, avant moi, qui ont mis ça en place, ceux qui ont accompagné, qui ont développé, et puis ça concerne aussi les gens qui continuent à travailler actuellement à Atmosphère 53.
C'est une équipe de 6 personnes, il faut quand même le dire aussi.
Oui.
Il y a des salariés.
Il y a des salariés.
Ils ne sont pas nombreux d'ailleurs par rapport à tout ce qu'ils développent. C'est assez impressionnant.
Oui, c'est quasiment dérisoire par rapport au travail qui est fourni, parce qu'il y a ce travail en milieu scolaire, il y a ce travail effectivement de défense du cinéma RSC. Alors là, c'est pareil, il y a un travail qui se fait en partenariat avec les salles et le travail des salles est également remarquable. Et puis, il y a un travail de médiation, c'est-à-dire que notre but, c'est de travailler sur les territoires, sur tous les territoires, essayer de travailler en harmonie avec les salles et puis travailler avec tous les partenaires culturels, donc théâtre, musique. Donc, les salariés qui travaillent pour l'association, effectivement, sont bien occupés et ils sont sur tout le territoire et je pense qu'ils ont noué des liens remarquables avec l'ensemble des partenaires culturels.
Alors, Pourquoi c'est important que des enfants voient des films? Pourquoi c'est important l'éducation à l'image? C'est quoi les enjeux qu'il y a derrière tout ça? Les enjeux pédagogiques, les enjeux culturels, humains?
Bien, les enjeux là sont vraiment fondamentaux. Moi j'en vois plusieurs. Le premier d'abord, c'est le cinéma, c'est la rencontre avec l'autre. Il faut déjà dire ça, parce que de plus en plus, effectivement, avec les Internet, avec tous les réseaux sociaux, bon, souvent, on parle aux mêmes. C'est-à-dire qu'on va toucher des gens qu'on connaît déjà, etc. etc. Le cinéma, c'est déjà une rencontre avec l'autre, avec celui qui est totalement différent. Et donc, cette première approche est essentielle. La deuxième raison que je vois, moi, c'est que c'est un art qui repose sur le désir et pas uniquement sur le côté pulsionnel. C'est-à-dire que les images maintenant, avec encore une fois Internet et tout ce qu'on peut avoir, on regarde une image, on passe à une autre, etc. Il y a un côté très pulsionnel. Le cinéma, on rentre dans une salle et on est obligé de se plier au temps d'un autre et rester dans la salle, effectivement, et découvrir que le plaisir peut venir au bout d'un certain temps et qu'il faut laisser ce temps
sortir du
temps.
Zapping.
Exactement, laisser ce temps au temps. Et puis, troisième raison extrêmement importante, c'est que le cinéma, c'est aussi une aventure collective. C'est-à-dire qu'on rentre dans une salle, on n'est pas tout seul. Et cette expérience collective que peuvent avoir des jeunes, c'est une expérience essentielle. Et tous ces trois points-là, laisser le temps au temps, répondre à l'autre, travailler sur le désir plus que sur la pulsion, travailler sur l'espace collectif plus que sur l'espace personnel, ce sont vraiment des enjeux qui sont quasiment des enjeux de civilisation maintenant.
Des enjeux de société, ouais.
Exactement. Mmh. Et donc, pour ça, et là, évidemment, je parle de cinéma, mais ça vaut pour n'importe quel art. On sait que ces quelques points-là, on pourrait les appliquer pour bien n'importe sûr. Quel art. Mmh.
C'est ce que vous parliez de fondement, voilà, on y est, c'est exactement
oui,
ça.
Exactement. Et donc, il faut commencer par les plus jeunes. Et c'est pour ça que, effectivement, nous sommes convaincus par ces actions auprès des plus jeunes. Ensuite, il faut évidemment les accompagner et aller jusqu'au public plus âgé et continuer à proposer des films de qualité.
Bien sûr. Alors, les fondements, ils sont là aussi dans le. Je fais une transition un peu tirée par les cheveux. Ils sont aussi dans la musique de Buddy Guy, voilà, puisque c'est votre quatrième choix. Buddy Guy, donc musicien de blues. Peut-être un clin d'œil à Scorsese, je ne sais pas.
Oui, alors il y a tout ça. Et puis, mais ça, c'est pas si tiré par les cheveux que cela, parce que ce que j'adore chez ce musicien-là, c'est l'espèce d'énergie qu'il a. Et donc, cette énergie, c'est ce qu'on essaye d'avoir aussi dans l'association.
Super, bravo. Allez.
got the blues. You damn right, I got the blues. You damn right, I got the blues. You damn right, I got the blues. Yeah.
Buddy Guy, donc le morceau Damn Right, I've Got the Blues, donc dernier choix, avant-dernier choix de notre invité Yannick Lemarié, avec qui on va pouvoir parler maintenant actualité, puisque on est en plein dans le lancement du festival, un festival qui est aussi porté par Atmosphère 53, le festival du film judiciaire de Laval, qui fêtera sa 9e édition là, le 5 et 6 octobre. Peut-être parler un peu déjà des origines de ce festival, c'est pas forcément, comme ça, ça tombe pas forcément sous le sens, un festival autour de la justice. Est-ce que la justice, c'est cinématographique, c'est un bon sujet de film?
Oh, oui, effectivement.
Il y a des films de procès, de tribunaux, il y en a pas mal.
Exactement. Aux États-Unis surtout, oui. Ouais. En France, c'est un peu plus compliqué, mais aux États-Unis, effectivement, il y a une fascination pour le procès, tout simplement, parce qu'il y a une dramaturgie.
Oui, c'est presque un théâtre. Hein.
Voilà, exactement.
Ils sont déguisés, ils jugent.
Et donc, le cinéma s'est emparé très souvent de ce moment-là. Et puis, l'autre point pour nous, en tout cas, c'est de dire que le cinéma, c'est effectivement un moyen de se divertir, ce que je disais, de rencontrer l'autre, de voir des pays qu'on ne connaît pas, des gens qu'on ne connaît pas, mais c'est aussi un moyen de réfléchir sur le monde actuel. Et donc cette question de la justice, évidemment, est importante, et donc le cinéma s'empare de cette question-là. Enfin, souvent. Mmh. Et donc,
il y a une vraie matière.
Voilà. Mmh. Et puis, il y avait une volonté aussi du barreau de Laval, notamment du président Douchy, de faire quelque chose autour du cinéma et de la justice. Donc, cette volonté commune a permis effectivement la création du festival du film judiciaire à Laval.
Mmh. Et alors, du coup, on peut parler de l'édition qui vient, là, le 5 et 6, avec une avant-première. Peut-être que c'est déjà peut-être ça qu'on peut noter. Vous avez la chance de pouvoir présenter en avant-première le dernier film de Depardon,
voilà.
Qui avait déjà commis un film sur le milieu judiciaire.
Oui.
Je ne sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, mais en tout cas, il y avait déjà eu un documentaire.
Oui, Deli.
On va retrouver.
Échapper. Oui, voilà. un film de Pardon qui avait déjà aussi travaillé sur la maladie psychiatrique, la justice, et donc là, il fait un film qui, d'une certaine façon, croise ces deux questions-là qui se trouvent dans son cinéma. Et c'est un film qui est remarquable. Hein. On a eu la chance de le voir, évidemment, en avant-première pour le sélectionner. Et c'est un film qui est remarquable parce que, à la fois, ça montre la difficulté de juger, et ça montre également pour le spectateur aussi comment s'organisent ces rencontres, puisque au bout de 12 jours il faut qu'un juge valide ou non
l'internement
d'office. Et donc on voit évidemment que parfois on comprend qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'il faut continuer à interner, et puis il y a des cas où en tant que même spectateur on se dit mais quelle est la bonne solution. Et avec très peu de moyens, et c'est ce qui fait la force, la puissance d'un quelqu'un comme Depardon.
Dispositif simple. Ouais.
Vraiment, il a un dispositif, des dispositifs qui sont très simples, et il en fait des dispositifs extrêmement puissants, qui permettent effectivement de poser les bonnes questions, et qui laissent aussi le spectateur se poser des questions.
Alors, a priori, le film que j'évoquais tout à l'heure, c'est Deli Flagrant.
Voilà, c'est ça.
Merci Vincent qui nous
Deli,
a...
je sais qu'il y avait Deli,
qui a retrouvé l'info.
Voilà.
Très bien, on peut parler peut-être des autres films au programme, rapidement, on n'est pas obligé de tout passer en détail. Il y a I'm Not Your Negro, par exemple,
voilà.
qui est un film fort aussi.
Voilà, grand film de Raoul Peck, qui sort aussi, qui a sorti donc, le film Karl Marx, qui est un grand réalisateur, hein, c'est quelqu'un qui a une réflexion, et évidemment, les questions de la situation des Noirs en Afrique le passionnent, et ce film-là, évidemment, pareil,
États-Unis.
C'est un film extrêmement puissant.
Aux États-Unis, hein, c'est ça?
Oui, pardon, excusez-moi.
Ouais. Oui. En Amérique.
Oui. Voilà, le film est un film pareil, puissant, qui reprend des images d'archives, donc un travail de construction, il y a aussi tout un travail de réflexion autour de la question des libertés. Et il réussit à croiser tout ça et encore une fois à laisser les spectateurs mener une réflexion par eux-mêmes. Mmh. Donc voilà, nous avons deux films qui sont, je conseille aux spectateurs d'aller les voir, parce que vraiment deux films très très forts et qui permettent d'avoir une réflexion sur la question des libertés, puisqu'on a placé comme titre là la question des libertés, et c'est la liberté, l'action des libertés pour les minorités, c'est la question des libertés pour ceux qui sont malades et qui sont internés, c'est cette question des libertés qui doit interroger chaque citoyen, et pour cela tous ces films permettent de petit à petit développer une réflexion et surtout d'écouter les intervenants, puisque nous avons des intervenants à chaque fois.
Ouais, ça. Marque de fabrique aussi de Atmosphère, c'est une projection, mais aussi des intervenants qui accompagnent le film, qui permettent d'avoir une discussion après. Voilà, donc à chaque fois, il y a deux intervenants, je crois que vous en faites partie d'ailleurs sur certains films,
oui,
qui viennent voilà, témoigner, apporter un éclairage, un décryptage.
Il y a un intervenant pour l'aspect cinématographique, puisqu'on est attaché à cela. Les films, je vous l'ai dit, hein, ce sont les films qui sont proposés sont des films qui sont remarquables, hein, ce sont tous des grands films. Donc il y a un plaisir du spectateur de voir ces films-là. Et puis il y a un intervenant côté justice, un intervenant judiciaire, qui lui va porter un éclairage plutôt sur les aspects de la liberté à travers justement des propositions comme ces films-là.
Un dernier clin d'œil sur votre actualité un peu plus lointaine, c'est celle du Festival des Reflets du Cinéma qui se tiendra en mars prochain.
Pardon. Mars, voilà.
Voilà, un petit clin d'œil sur la thématique, quelques petites infos, et puis pouvoir prendre date déjà de ce rendez-vous.
Mm-hmm. Alors bon, c'est un rendez-vous régulier pour nous, donc ça sera un rendez-vous qui aura lieu du 16 au 27 mars 2018, donc dans tous les cinémas du département. Et donc là, cette année, ce sera le cinéma indien. Alors on a mis indien et d'ailleurs, parce qu'on va faire non seulement le cinéma indien, peut-être un peu de sous-continent indien, et puis on proposera des avant-premières aussi. Hein. Donc le but, c'est que chacun trouve plaisir et puis découvre, pareil, un continent, à la fois un continent humain, un continent géographique et un continent cinématographique. Parce que le cinéma indien, il y a une variété. Donc il y a à la fois les films de Bollywood que tout le monde connaît,
bien sûr,
qui sont passionnants, et puis d'autres films que nous espérons faire découvrir aux spectateurs.
D'accord.
Alors, une information, puisqu'on l'a annoncé lors de notre soirée d'ouverture, c'est que nous aurons une marraine, une jeune actrice, qui s'appelle Shahana Goswami, qui a fait pas mal de films, des films très variés, et qui sera avec nous quasiment pendant tout le festival.
D'accord, super.
Donc, ça sera un plaisir pour nous. D'abord parce que c'est quelqu'un qui a une grande connaissance du cinéma indien, qui est tout à fait sympathique, et puis qui accepte à la fois d'accompagner des films, et puis de rencontrer les jeunes spectateurs, puisqu'on parlait des jeunes spectateurs.
La boucle est bouclée.
Voilà.
Donc, rendez-vous du 16 au 27 mars, pardon, dans tout le département pour profiter du prochain Festival des Reflets du Cinéma. Merci Yannick pour d'avoir accepté notre invitation et d'avoir passé cette heure avec nous. Merci aussi à Vincent qui a assuré, comme d'habitude, avec brio la régie technique de cette émission. On va se quitter avec le dernier choix de notre invité, Yannick Lemarié, un titre que je trouve assez cinématographique d'ailleurs aussi,
oui,
de Richard Galliano. Peut-être un petit mot comme ça de présentation sur ce choix-là.
Là c'est le jazz, c'est le jazz, le plaisir, et puis allié à la fois la tradition de l'accordéon avec la modernité du jazz, voilà, ça vaut pour tout le monde.
Ok, ça va être une belle conclusion en tout cas pour terminer cette émission. Nous on se donne rendez-vous en novembre, le 2 novembre, pour une nouvelle émission sur les ondes de l'autre radio. Et puis samedi, dans deux jours, au Théâtre de Laval, pour le lancement de la compile Transistor, avec deux concerts qui vous permettront d'écouter en live cette compilation. À bientôt.
Merci à vous.